Vous écoutez On lit pour vous.
De l'humble demeure d'un porteur jusqu'au Ritz-Carlton. Un texte de Marie Tison, paru le 3 février 2024 dans La Presse. Le 12-16 rue du Sussex n'existe plus. On ne trouve ici qu'un mince parc. Or, en 1938, la femme de Jay Potter, un employé du Canadien Pacifique, accueillait dans le logis familial les voyageurs noirs qui peinaient à trouver un hébergement dans une ville où sévissait une certaine ségrégation. Dans les années 1940, Nina Morse et son mari, porteur du Canadien national, accueillaient les voyageurs noirs à leur domicile du 3164 rue Saint-Antoine. C'était la première adresse canadienne que recommandait le Negro Motorist Green Book depuis la création de ce guide en 1936. Nul ne sait ce qui est advenu de la famille Potter. Cette recommandation est disparue dans les éditions suivantes. Mais Nina Morse a pris la relève en 1941. Elle était la femme d'un porteur du Canadien national, Horace Morse, et elle a continué à accueillir des voyageurs noirs pendant des années, d'abord au 3164 rue Saint-Antoine, puis au 932 Calumet Place, même après la mort de son mari. Les premières adresses montréalaises qu'on retrouve dans le Green Book mentionnent essentiellement de petites pensions de famille, des « tourist homes », tenues par les femmes de porteurs de wagons-lits comme Horace Morse, B. Grant et Alf Davis. Pour la plupart, elles sont situées dans la petite Bourgogne, alors le cœur de la communauté noire anglophone de classe ouvrière de Montréal. De grands musiciens de jazz comme Oscar Peterson et Oliver Jones sont d'ailleurs issus de ce quartier. Comme la petite Bourgogne était située près de plusieurs gares, on y trouvait de nombreux employés du CN et du CP. De petits hôtels peu dispendieux de l'extérieur du quartier commencent à apparaître dans les éditions suivantes du Green Book, comme l'hôtel Philibert sur Saint-Laurent en 1949 ou la Casa Bella au 258 rue Sherbrooke-Ouest en 1956. Ce dernier hôtel existe toujours, au même endroit, mais sous une adresse un peu différente. Le Green Book mentionne aussi un salon de beauté, le Mendes, au 2036 rue Saint-Antoine. Pour les voyageurs noirs, il n'était pas toujours facile de savoir où aller se faire pomponner dans une ville étrangère. L'édition de 1956 propose une adresse bien mystérieuse pour la première fois dans la ville de Québec. Il s'agit du Husband's Resort au 6 Calixa. L'adresse semble incomplète. Le site peut être un peu louche. Il ne réapparaît pas dans les éditions suivantes. L'édition de 1962 du Green Book mentionne des restaurants montréalais, à commencer par l'incontournable Ruby Foo's. Mais on trouve aussi le fameux restaurant du 9e étage d'Eaton, un véritable chef-d'œuvre d'art déco qui a fermé en octobre 1999, mais qui devrait rouvrir ses portes au printemps 2024. La grande salle du restaurant du 9e étage chez Eaton, au temps de sa splendeur, accueillait les visiteurs noirs dans les années 1960. Le grand magasin Morgan, maintenant l'abbé, avait également un restaurant qui se montrait accueillant envers les visiteurs noirs. Le Green Book mentionne aussi le fameux restaurant « Au lutin qui bouffe », rue Saint-Grégoire, qui a malheureusement été détruit par un incendie en 1972. On y trouve maintenant un concessionnaire automobile. L'édition de 1962 fait également une grande place au motel. On ne se limite plus à la petite Bourgogne. On se retrouve en périphérie avec le Marpeck Motel et la Parisienne sur le boulevard Taschereau. La plupart ont disparu. La Parisienne, par exemple, a été la proie des flammes à 3 reprises en 5 mois en 2005, ce qui semble un brin suspect. Un commerce de lubrification d'huile a pris sa place. Plusieurs de ces vieux motels vivent encore sur de vieilles cartes postales qu'on peut se procurer pour quelques dollars sur eBay. Le motel Pierre est cependant encore bien en place, sur le boulevard Marcel-Lorrain, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. L'établissement a manifestement un petit aspect rétro. Un premier grand hôtel fait enfin son apparition dans le Green Book en 1962, le Windsor, qui fut un des plus grands hôtels construits au Canada. Pour la petite histoire, c'est au cours d'une réunion au Windsor en 1917 qu'on a créé la Ligue nationale de hockey, LNH. Le Windsor a été partiellement détruit par un incendie et est maintenant un immeuble d'affaires qui fait face au Square Dorchester. Il faut attendre l'édition de 1963 pour voir apparaître d'autres grands hôtels de Montréal comme le Ritz-Carlton, le Reine Élisabeth, le Berkeley et le Sheraton Mont-Royal. Ces deux derniers établissements ne sont plus des hôtels, mais on peut encore les admirer au centre-ville. Le Berkeley, au 1188 rue Sherbrooke-Ouest, fait maintenant partie du complexe Alcan, alors que le Sheraton Mont-Royal accueille les cours Mont-Royal au 1455 rue Peel. Dans ces dernières éditions, le Green Book commence à faire place à d'autres villes canadiennes. À Québec, on recommande le château Frontenac et le château Laurier, ainsi que le manoir Saint-Castin à Lac-Beauport. À Ottawa, on mentionne également de grands établissements, le château Laurier et le Lord Elgin, qui accueillent encore aujourd'hui des visiteurs. Les humbles pensions de famille ont disparu. C'est une nouvelle ère pour les voyageurs noirs. C'était de l'humble demeure d'un porteur jusqu'au Ritz-Carlton. Un texte de Marie Tison, paru le 3 février 2024 dans La Presse.
À Gaspé, des Philippins à la rescousse de l'industrie éolienne. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 26 janvier 2024 dans Le Devoir. Le vent tourne en Gaspésie. La péninsule déborde de nouveaux venus après des années de dévitalisation. Derniers arrivés dans le décor, quelques 300 Philippins. La compagnie LM Wind Power se tourne vers eux pour fabriquer à Gaspé des pales d'éoliennes. Non sans causer quelques frictions dans la communauté, leur intégration miroite comme une prémisse aux autres mégaprojets industriels au cœur de la transition énergétique au Québec. Le quart de travail de 12 heures vient de se terminer. Malgré la fatigue dans les yeux, les sourires apparaissent sur les visages. On se réchauffe en mangeant pour le déjeuner du riz et un bol de soupe. Nous, les Philippins, on rit beaucoup. Le sourire, c'est notre façon de nous présenter, dit en anglais le plus loquace du groupe, Andrei Capilli. Ils sont 17 à partager cette maison de chambre du centre-ville, alors qu'on en compte près de 300 en tout qui travaillent à Gaspé. La plupart sont arrivés entre septembre 2022 et juin 2023 grâce à une agence de placement et ils besognent aux côtés d'environ 300 travailleurs québécois. Même avec son hiver rigoureux, le Canada est vu comme une terre de vert pâturage, raconte Alex Espineau, doyen de cette dernière batch, une expression qui vient de lui. « J'ai travaillé à Abu Dhabi et ailleurs au Moyen-Orient. Là-bas, on n'a aucune chance d'accéder à un statut légal. » On vient ici pour vivre comme on vit au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Rien n'est pourtant facile dans la blanche Gaspésie hivernale. Leur quotidien est rythmé par les exigences de l'employeur. Un autobus les prend chez eux et les y ramène après le boulot. Des permis de travail temporaires leur garantissent un séjour de 3 ans au Québec. Ils aimeraient bien rester plus longtemps en Gaspésie, mais ils ne se bercent pas trop d'illusions. Si on leur accorde une résidence permanente canadienne, certains vont partir, certains vont rester, de dire Andrei Capilli. On ne les voit pas souvent. Discrets et sympathiques, ces Philippins ont néanmoins transformé le paysage linguistique de l'usine gaspésienne ouverte vers 2005. Outre leur langue maternelle, le tagalog, ils s'expriment en anglais. Conséquence, les communications internes chez LM Wind Power sont bilingues. On utilise le jargon technique en anglais propre au secteur des pales d'éoliennes et cette langue s'impose peu à peu comme la principale langue de travail. Il y a toujours le langage des gestes pour communiquer les besoins élémentaires, mais certains travailleurs gaspésiens unilingues francophones se sont résignés à apprendre l'anglais pour être compris de leurs collègues. « Je m'ennuie de parler en français », confie au devoir un ouvrier de la première heure qui préfère ne pas être nommé par crainte de représailles. 2 plaintes ont d'ailleurs été déposées à l'Office québécois de la langue française en lien avec cette situation. La direction de LM Wind Power a décliné nos demandes répétées d'entrevue. La plupart de ces nouveaux venus suivent assidûment des cours de français, à raison de 2 leçons par semaine, mais ils peinent encore à s'exprimer dans la langue locale. Il faut apprendre le français pour pénétrer la culture, reconnaît Alex Espineau. Seulement, le travail éreintant et les quelques jours de congé laissent peu de place à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et certains d'entre nous sont gênés de le parler, renchérit Andrei Capilli. Le vieux fonds anglophone de Gaspé n'aide pas non plus. Environ 5% des habitants sont unilingues anglophones et 35% sont bilingues. Il leur est donc facile de contourner la vie en français. La pêche demeure le grand point de rencontre entre étrangers et locaux. Le congélateur rempli de poissons confirme que les Gaspésiens partagent avec leurs nouveaux voisins les bons coins où repérer les bars rayés qui baignent dans la baie. Les bras de Gaspé restent bien ouverts à l'immigration, confirme un sondage mené pour le devoir par la Chambre de commerce de la côte de Gaspé. On aimerait ça les voir plus, revient souvent parmi les commentaires recueillis. On pourrait les impliquer dans le défilé de Noël ou encore leur offrir une scène durant le festival Musique du bout du monde, suggère-t-on. Diversification économique. L'autre constat généralisé de la communauté d'affaires, c'est que ces nouveaux arrivants ont provoqué un déséquilibre sur le marché du logement locatif, car LM se charge de loger ses employés. Ont ainsi été loués pour ces 300 travailleurs des bungalows, des maisons de chambre et même des résidences pour étudiants. Être employeur et locateur, ça fait beaucoup d'œufs dans le même panier, observe Gabriel Neveu du Comité autonome Accessibilité Logement de la côte de Gaspé. Le déséquilibre évoqué découle aussi de l'avantage de ces ouvriers par rapport aux autres personnes cherchant un logis. Les propriétaires semblent beaucoup plus confiants en louant à ces travailleurs car ils peuvent toujours se tourner vers l'employeur en cas de problème. Les maisons uniquement habitées l'été par les vacanciers s'ajoutent aussi à l'équation qui mène au taux d'inoccupation des logements locatifs de 0% à Gaspé. Même avant que ne débarquent ces centaines de néo-gaspésiens, le maire de la municipalité avait placé la construction de nouveaux logements au centre de son mandat. Des centaines de nouvelles demeures verront bientôt le jour, promet Daniel Côté. Un énorme bâtiment de plus d'une centaine de chambres pour les travailleurs serait même dans les cartons de promoteurs. Gaspé a tout le temps grandi sur des vagues d'immigration, rappelle-t-il. Tout ça enthousiasme le maire, qui, lui aussi tout sourire, se félicite que Gaspé soit passé du statut de ville mono-industrielle, centrée sur la pêche, à celui de ville bi-industrielle. Cette diversification économique le rassure sans que l'objectif soit tout à fait atteint. Tout va bien pour l'instant, mais la viabilité de la grande entreprise n'est jamais garantie sur le long terme. L'immigration des grandes usines du passé prouve que cette frénésie de nouveaux employés et de nouveaux logements pourrait bien s'estomper si le vent de l'économie conduisait à la fermeture de LM Wind Power. Je ne m'inquiète pas pour les prochaines années, mais d'ici 10 ou 20 ans, sera-t-on toujours OK? Pourquoi les Philippins? Troisième pays d'origine en importance pour l'immigration au Canada, après l'Inde et la Chine, les Philippines attirent bon nombre d'entreprises en quête de main-d'œuvre étrangère. Surtout présents dans le reste du Canada, les Philippins sont tout de même partout au Québec, de la Beauce jusqu'à la baie James. Mais pourquoi les Philippines? Parce que le pays a placé l'exportation de ses citoyens au cœur de sa stratégie économique, explique Kazu Takamura de l'Institut d'études du développement international à l'Université McGill. Il y a exactement 50 ans, le gouvernement philippin lançait une politique d'émigration de ses citoyens afin qu'ils envoient ensuite une partie de leur salaire au pays. Le gouvernement va même jusqu'à décerner chaque année le prix « Héros des temps modernes » à 20 migrants qui font preuve de courage moral, de travail acharné et d'expérience en matière d'envoi d'argent à la maison. Environ 1 million de travailleurs philippins ont été déployés ou redéployés partout dans le monde chaque année entre 2006 et 2016, un nombre qui a augmenté à près de 2 millions entre 2016 et 2019. La pandémie a freiné cette exportation de main-d'œuvre, mais la tendance est récemment repartie à la hausse. Le Canada et le Québec profitent donc de ces paires de bras qui ne demandent qu'à trouver de l'ouvrage outre-mer. C'était, à Gaspé, des Philippins à la rescousse de l'industrie éolienne. Un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 26 janvier 2024 dans Le Devoir.
La méthode pyramidale appliquée à la littérature. Un texte de Stéphanie Morin, paru le 3 février 2024 dans La Presse. Vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook, une invitation à participer à une chaîne de livres rappelant une tradition islandaise. Ce message est apparu sur ma page Facebook à la mi-janvier. Séduite par la poésie du geste, envoyer des livres en papier à des inconnus est totalement anachronique au 21e siècle, mais aussi poussée par une bonne dose de curiosité, j'ai accepté l'invitation publiée sur le compte de mon amie Anne-Marie. Ça se lisait comme suit. Je cherche des personnes pour participer à un énorme échange de livres. Ce qui me rappelle l'échange de livres de Noël en Islande fait chaque année, appelé Jólabókaflóa ou l'inondation du livre de Noël. Tout ce que vous avez à faire, c'est acheter ou recycler votre livre préféré et l'envoyer à un inconnu. J'enverrai les détails en message privé. Vous recevrez un maximum de 36 livres à garder pour vous. Ce seront les livres préférés d'étrangers partout. Si vous êtes intéressé à participer, répondez à ce message par IN. Je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune idée d'où vient ce chiffre de 36. Et je l'admets, 36 livres par participant semble un chiffre peu plausible, irréaliste même. Une amie d'un ami m'a répondu que la chose était impossible, étant donné la population mondiale actuelle avec des chiffres et des exposants à l'appui. Qu'importe. L'idée qu'un livre soit envoyé à mon nom par un inconnu ou une inconnue a de quoi me charmer. Les coordonnées postales de la personne à qui je devais envoyer mon livre, celle qui a recruté Anne-Marie, me sont arrivées par messagerie privée, avec la marche à suivre pour garder la chaîne en vie. Publier le message à mon tour sur ma page Facebook et transmettre en privé les coordonnées de la personne qui m'a recruté, Anne-Marie, pour qu'elle reçoive un bouquet. Il fallait ensuite ajouter mes informations postales au message envoyé à chaque participant qui a répondu oui à mon invitation. Ceux qui seront à leur tour recrutés par ces derniers m'enverront un livre. Vous suivez toujours? La méthode pyramidale, bref, mais sans le dessein de frauder qui que ce soit. C'est d'ailleurs parce que l'initiative lui semblait belle qu'Anne-Marie Desbiens a accepté de relayer le message. Je trouvais ça chouette comme idée, d'autant plus que l'amie par laquelle le message est arrivé est mariée à un Danois. Elle connaît bien l'esprit nordique, le Hygge, H-I-G-G-E. Le seul prix que ça me coûtait, c'était d'envoyer un livre. Et comme on reçoit rarement des colis par la poste de nos jours, c'est excitant. Cette autrice a choisi l'un des titres qu'elle a elle-même écrit, « La femme de personne ». Elle a ajouté un petit mot au destinataire. S'écrire des mots et des pensées comme ça, entre inconnus, je trouve ça beau. Ça fait du bien. De mon côté, j'ai ajouté une petite aquarelle peinte de ma main et un message succinct au livre que j'ai choisi d'envoyer à la personne dont les coordonnées postales m'ont été fournies en privé. Il s'agissait d'Océan, mer, d'Alessandro Barrico, un roman que j'ai lu deux fois et qui, chaque fois, a accompagné mes rêves de bruit de vagues. Coïncidence, le premier livre qui m'est parvenu par le truchement de cette chaîne a été un autre livre signé Alessandro Barrico. Soit. Il était accompagné d'une belle carte de Noël. Chaque jour qui a suivi l'arrivée de ce premier ouvrage a apporté son lot de surprises dans la boîte aux lettres. Un facteur aura rarement été attendu avec autant d'impatience. Au moment d'écrire ces lignes, soit 17 jours après la publication du message sur ma page Facebook, j'avais reçu 24 ouvrages. Un Paolo Coelho, un recueil de nouvelles lettonnes, un essai sur la culture du chocolat, la trilogie new-yorkaise de Paul Auster, un roman de Roxane Bouchard, un autre de Valérie Perrin, un Zola, un Ouur Ava Olaf Dostir, deux recueils de poésie. Plusieurs des colis contenaient une lettre ou un petit message. Souvent, un simple « bonne lecture » écrit à la main sur un bout de papier. Assez pour apporter du soleil dans la grisaille ambiante. J'espère que des retardataires m'enverront d'autres beaux titres à lire. Je ne me lasse pas de ces paquets surprises, ouverts chaque fois avec beaucoup de fébrilité. Je sais toutefois que tous ceux qui m'ont répondu vouloir participer à la chaîne ne sont pas allés jusqu'au bout de l'exercice. Une amie m'a avoué ne pas vouloir partager le message sur sa page Facebook. Trop de gestion, selon elle. Un autre l'a diffusé, mais ses propres contacts ont pensé que son compte avait été piraté. Au contraire, mon ami Mario a été inondé de réponses affirmatives, près de 60. Combien d'entre eux iront jusqu'au bout du processus? Impossible à dire. Certes, il y a fort à parier que cette chaîne littéraire mourra de sa belle mort et tombera dans l'oubli, comme les chaînes de lettres qui naissaient de temps à autre dans les années 1970 et 1980. Mais le temps qu'aura duré cette initiative, je me serai délecté à ouvrir chaque colis reçu en ce mois, ô combien déprimant, qu'est janvier. La lecture sera bonne. Tak firir. Merci beaucoup, comme disent les Islandais. C'était la méthode pyramidale appliquée à la littérature. Un texte de Stéphanie Morin, paru le 3 février 2024 dans La Presse.
Comment protéger son dossier de crédit contre les voleurs d'identité? Un texte de Didier Hébert, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Pas moins de 97 % des Canadiens se disent vulnérables à la fraude et au vol d'identité. Ce n'est pas rien. Depuis le 1er février 2023, la loi sur les agents d'évaluation du crédit permet aux Québécois d'exiger un gel de sécurité dans leur dossier de crédit, empêchant ainsi les fraudeurs d'ouvrir en leur nom de nouvelles lignes de crédit, prêts, cartes de crédit, marges de crédit, etc. Pour en faire la demande gratuitement auprès d'Equifax, il suffit de créer un compte gratuit my.equifax.ca/login, puis d'aller dans la section Statut du dossier de crédit Equifax et sélectionner Gérer le verrouillage. La procédure est semblable sur le site de TransUnion, secure-oc.transunion.ca. Il faut créer un dossier puis sélectionner Gérer votre gel de crédit. Bon à savoir, le blocage du dossier peut prendre plusieurs heures. Et il ne faut pas oublier de débloquer le dossier de crédit si on désire emprunter ou obtenir une carte de crédit. C'était « Comment protéger son dossier de crédit contre les voleurs d'identité », un texte de Didier Hébert, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.